Sur la structure du paracet de l'échine, vous vous rappelez de cela? Commencez un peu à vous situer. Ne confondez pas avec le cours du jeudi soir, du jeudi après-midi, qui était une confrontation avec l'univers de la philosophie. On a à peine débuté et on a repris la notion de création. Mais ça, c'est à part. Alors, on reprend la structure du paracet de l'échine. On avait commencé à poser un certain nombre de questions et je vous ai donné un plan, vous vous rappelez de cela, qu'on a étudié sur l'œuvre du premier jour. Vous vous rappelez, on a eu des questions de vocabulaire, masse et énergie, la notion de force de les six choses de la création, tout ça c'est bien en tête, hein? C'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Oui, on a commencé à étudier un plan sur les versets du Yomera. Ça a dû vous frapper d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une tout à l'heure, je ne me rappelle plus laquelle, à Isabelle, je crois que j'ai passé 5 minutes, vous avez étudié ça avec Elie. Okay. Ça vous a frappé qu'il y a écrit Yom Echad et pas Yom Rishon? Okay. Vous entendez en hébreu ce que je veux dire? Donc, puisqu'il s'agit d'une première nuit, il aurait été normal que le texte dise Vayel et Vayiboker, et ce fut soir, ce fut matin, Yom Rishon. Or, il y a écrit Yom Echad et pas Yom Rishon. Quelle est la différence? Echad, ça veut dire jour. Hein? Au lieu de jour premier. Je ne sais pas comment on dit en français, les noms ordinaux, cardinaux.
Ordinal, c'est premier.
Ordinal, c'est premier. Oui, l'ordre. D'accord. Vous avez une réponse à cela? Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse?
Un
seul jour. Un seul à la fois, chaque fois. Quel?
Qui est? C'est un jour qui est unique.
Parle plus fort.
Parce que c'est un jour qui est unique.
Bon, ça, c'est la réponse du Midrash. Okay. Et en quoi il est unique? En ce qu'il est le premier?
Non, mais c'est tout.
Alors, dis qu'il est le premier, je sais qu'il est unique. Parlez plus fort, vous savez, je veux dire, l'âge, ça rentre. Okay. Surtout quand j'ai pas mes lunettes.
Non, ils vont tous être bâtis selon le même plan, selon le même mot.
Non, c'est pas ma question. Okay. Ma question, c'est que normalement, on s'attendrait à ce qu'il y ait Yom Rishon, jour premier. Or, il y a Yom Echad. Regardez, attention au vocabulaire. La question, la réponse qu'il y a eu, c'est que le mot signifie jour 1, Yom Echad. Et tout de suite, toi, c'est Maki?
Non.
Non, enfin, je m'habituerai. Comment c'est?
Marty.
Tu m'as répondu unique. Mais un et unique, c'est pas exactement la même chose. Attendez, l'air, doucement, doucement. Bien. Alors prenez déjà ces mots-là en vocabulaire. Et c'est pour ça que je dis, c'est la réponse du Midrash, qui a changé un en unique. Mais c'est deux mots différents. Alors on les apprend d'abord en hébreu. C'est clair? Un, ça se dit Echad. Je vous dis, moi j'ai appris sans voyelles. Alors il peut m'arriver de faire des erreurs dans les voyelles. Ne vous impressionnez pas, vous mettez les voyelles exactement. Hein? Et si c'est ça, probablement, bon, n'importe. Echad, ok? Ça c'est un. Et Yachid, c'est unique. Alors, quelqu'un peut expliquer la différence, en français, la différence entre la notion de un et la notion de unique?
Un.
Qui, toi, tu dis.
Parce que 1, ça sous-entend qu'il y a quelque chose derrière, 2, 3, 4, et unique, c'est, il y a rien de sauce.
Très bien, mais tu m'as donné un peu une définition négative. Donne une définition positive. Quand je dis que quelque chose est 1, ou quand je dis que quelque chose est une définition simple. Et c'est, non, c'était elle qui avait dit.
Oui, mais c'est pas un peu ce que je veux.
Bon, alors toi
1, c'est, ça sous-entend le chiffre, au niveau de. Du nombre, quoi. Et unique, c'est la spécificité.
Très bien. La deuxième partie, c'est exact. Quand je dis que c'est unique, ça veut dire je suis le seul à être cela, spécifique. Okay. Et vous allez encore apprendre un mot en hébreu, pour en profiter. Comment on dit la spécificité en hébreu?
Yohad.
Avec le même mot. Miyuchad, c'est l'adjectif. Habitude, je vous en prie, à pas répondre tout à la fois, on comprend pas. Un à la fois. Meyoucha, c'est l'adjectif, hein? Spécifique, unique. Je vous ai demandé le substantif, la spécificité. Yichud. Yichud, c'est la spécificité. Le yichud de chacun. Ce qui spécifie chacun qu'il est le seul à être ça. Ça, c'est unique. Unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. C'est clair? Unique, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et faites bien attention, quand nous disons que Dieu est un, ne pas mais, comment dire,
mélanger,
c'est pas joli,
confondre
entre l'idée que Dieu est un et l'idée que Dieu est unique. L'idée que Dieu est unique, ça, nous le trouvons par exemple dans le monothéisme de l'islam, et c'est tout à fait cachère. Okay? Le monothéisme de l'islam, c'est qu'il y a un seul Dieu, un seul, unique. Alors que, et ceci c'est un monothéisme préalable, sémite, général, préalable au monothéisme hébreu, qui va plus loin. Et que ce Dieu unique, qu'il n'y en a pas d'autre, il est un. Alors ça c'est une autre. Vous suivez? Et là nous disons Echa, un. Hein? Ça veut dire que c'est pas divisé en parties. Un, unité. Vous voyez? En fait, je vous mets ça en français, le substantif renvoie à unité, tandis qu'ici c'est unicité. Vous voyez la différence? Alors si je parle de l'unicité d'une réalité ou d'une personne, ou de son unité, c'est pas la même catégorie. Bon, intégrez ça dans votre vocabulaire, en hébreu surtout, Echad, Yahid, Yichud avec Yud, c'est la spécificité, l'unicité aussi. Et nous avons aussi le mot Yichud, j'ai ajouté exprès un Yud, mais je l'enlève. Ichud qui renvoie Echad, qui veut dire unité, et aussi unification, Leahed en hébreu, le verbe. Okay? Bon, chaque fois j'aurai à dire aussi des choses en plus pour ceux qui sont plus avancés en hébreu, les autres ne vous impressionnez pas, vous retenez ce qui va avec votre livre. Okay? Mais surtout, ça, la différence, réfléchissez bien ça, entre affirmer que Hachem Echad ou affirmer que Hachem Yahid. Okay? Que Dieu est unique. C'est vrai, mais déjà pour l'hébreu ça fait plus problème. Le problème qui va se poser à la conscience de l'hébreu, c'est que ce Dieu unique est un. Vous voyez le niveau? Et pourquoi la question se pose? Alors je vous dis très rapidement, c'est pas notre sujet, on reprendra ça après avec le Kriyashma. Pourquoi la question se pose? C'est parce que la manière dont ce Dieu unique se dévoile est multiple. Alors ça fait problème. Vous y êtes? Est-ce que c'est clair? On va prendre une jolie chose là-dessus. Vous avez compris cette idée? Par exemple, ce Dieu unique se dévoile à travers l'attribut de la rigueur, la justice absolue. Mais ce même Dieu unique se dévoile à travers l'attribut de la charité, de la grâce, de la bonté. Et c'est contradictoire, la rigueur et la bonté. Alors on se trouve devant un problème. Vous voyez? Mais pourquoi? Vous apprendrez très rapidement que la notion de Dieu unique n'est pas rationnelle. Puisque pour la raison, la religion naturelle serait le polythéisme. Nous recevons la divinité de côtés très différents. Vous suivez? Vous vous rappelez de cette idée, de cette notion, pardon, que je vous ai employée dans le cours de philosophie, la pensée naturelle? La pensée naturelle est naturellement polythéiste. Et ça vous explique pourquoi l'histoire de la religion commence par le polythéisme lorsque l'être, l'homme, s'abandonne à son être naturel. S'il fonctionne du point de vue de la nature, dans le sens philosophique du terme, il est spontanément polythéiste. Et on ne peut pas en vouloir à une conscience religieuse naturelle qui n'a pas été éclairée par cette révélation de l'unique, d'être polythéiste. Ce de quoi on va lui en vouloir, ce n'est pas ce niveau-là. C'est la conséquence morale du polythéisme, le chaos des valeurs. Ça, c'est un autre problème. Là, il y a conflit. Mais au niveau théologique, il n'y a pas de place pour un conflit. Il ne sait pas parce qu'il ne peut pas savoir, puisque son expérience naturelle est authentique pour lui. Il reçoit, ce que je vous ai appelé d'un mot très vague encore, la divinité, l'influx de la divinité, si vous voulez, mais c'est un peu de la poésie. C'est pour ça que je dis ça, je pense pas pour toi, c'est pour tout le monde. À travers des médiations, vous comprenez ce mot-là, des véhicules, des intermédiaires, si vous voulez, mais je préférais médiation, c'est moins païen, des médiations différentes et contradictoires. Vous avez attrapé cette idée? Vous voyez que. Je reviens parce que je crois que c'est important de mettre en évidence. Ne prenez pas pour rationnel, évidence rationnelle, ce qui n'est pas. La notion du Dieu unique n'est pas rationnelle. Ça va être une conquête de la vie spirituelle. Et cette unité se révélera à ceux qui sont arrivés à ce niveau de préparation à l'entendre. Et le reste reste en arrière, au niveau polythéiste. Parce que c'est l'expérience naturelle. Nous recevons le monde et la perception du monde à travers des perceptions chaotiques, en chaos, pas chaotiques. différentes, contradictoires. Je vais essayer d'expliquer ça. Vous verrez que j'insisterai souvent cette année sur la signification d'ordre moral de toutes ces choses-là. C'est un niveau de base, mais qui est le plus important à récupérer. Qu'est-ce que tout ça signifie pour la moralité, pour le problème moral? Après, il y a le niveau du problème théologique, du problème spirituel, du problème mystique, etc. Mais d'abord, il faut récupérer la vision et la perception juive de la morale. Et vous verrez à quel point elle est très différente de tout ce qui se passe chez les juifs, même si les mots ressemblent. À cause de ce problème de l'unité des valeurs, qui n'est pas une donnée naturelle. Et je vais essayer de vous expliquer ça par une image, et au niveau du problème moral. Et on y revient facilement. Si je suis occupé à pratiquer la justice, qui est une valeur absolue, hein, dans le moment où je suis occupé à pratiquer la justice, je viole la charité, qui est aussi une valeur absolue. C'est clair? Si je suis occupé à pratiquer la charité, dans le moment où je suis occupé à pratiquer la charité, je viole la justice. Okay? Et vous voyez pourquoi la pensée naturelle va être condamnée à une pente de conscience tragique. Qu'est-ce que ça veut dire, conscience tragique? Il n'y a pas de solution. Parce que je suis pris dans une contradiction absolue. La charité, c'est une vraie valeur, la justice, c'est une vraie valeur, et comment je vais faire? Si je sers l'une, je viole l'autre. Si je sers l'autre, je viole l'une. Alors, commencerez à comprendre pourquoi il y a une telle dimension de tragique dans la pensée spirituelle de la pensée naturelle. Je dirais, et c'est pas péjoratif le mot que je vais employer, chez l'Elohim, chez les nations, dans la mesure où il se laisse aller, où la conscience humaine se laisse aller à la vie de nature, si sophistiquée qu'elle soit, si culturellement développée, si civilisée qu'elle soit, et au top, bien au plus haut, c'est la philosophie. Okay? Il y a une dimension tragique. J'ai beaucoup pratiqué les philosophes, vivant un peu plus vivant, et une des intuitions qui m'est arrivée de l'expérience, cette fréquentation du monde de la philosophie, qui n'est pas du tout la mienne, moi je suis un juif, j'ai rien à voir avec les grecs, cependant il faut les connaître, parce qu'on est dans le même univers et on en conflit d'ailleurs en histoire, c'est leur dignité, c'est la tragédie. Vous voyez, à la limite, les stoïciens. La conscience tragique au niveau le plus pur, le plus digne. Et les rabbins du Talmud ont toujours énormément de déférence pour les stoïciens, donc ils n'ont pas du tout pour les épicuriens, c'est une autre école. Okay. Et il y a eu des dialogues entre stoïciens et rabbins du Talmud. Et au point que, je pourrais vous dire, un philosophe authentique, et c'est sa dignité, est un homme de conscience tragique. De notre temps, un des plus sympathiques, je peux dire, et une vie tragique d'ailleurs, c'est une pensée. Très bien, très bien. C'est dommage qu'il ait vécu si peu longtemps. Il aurait peut-être eu un apport considérable dans la situation contemporaine. Parce qu'il aurait fini par sortir de sa conscience tragique. Un être vivant ne peut pas rester là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? On est obligé de se dédoubler. D'être tragique au niveau de la vie spirituelle et d'être un jouisseur au niveau de la vie tout court. En général, ils étaient comme ça les épicuriens, pas les stoïciens. Les stoïciens sont des gens très doux. Et certains épicuriens aussi, bon, c'est un problème, on verra ça au cours du jeudi. Et au point qu'un philosophe qui ne serait pas de conscience tragique, c'est un clown, un farceur. Hein? Vous avez compris? À la limite. Hein? Vous voyez un philosophe bon vivant, alors que, et sérieux, alors qu'il est condamné à une problématique de contradiction, de ce qu'on appelle en langage philosophique, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, les antinomies. Les choses contradictoires, les antinomies. Un philosophe authentique, en tant que philosophe, ne peut être que de conscience tragique, s'il est sérieux, s'il est... j'ai oublié comment on dit ça en français, c'est ragoun, convenable. Hein? Sinon, c'est de qui se moque. Je vous donne un exemple. Et c'est ça, alors il faut qu'il se dédouble, schizophrénie. Comment? Ah, ben c'est ça. Mais c'est tragique d'être condamné à une destinée pareille. Alors que vous allez voir, tous les forces du judaïsme, c'est l'unité de la personne. J'ai une idée, je vais oublier, je vais en parler tout de suite. Vous avez un exemple qui a beaucoup frappé par rapport au monde de l'existentialisme. Vous avez entendu parler de cette philosophie qui, autant, quand j'avais votre âge, c'était la grande mode. Après, c'est devenu le structuralisme, je ne sais pas où ça en est maintenant, ça devient un structuralisme plus ou moins. Bon. Et alors, vous avez entendu parler de la grande figure, vraiment une très grande figure de Jean-Paul Sartre. Mais il y avait toute une histoire de la dimension existentialiste de la philosophie, depuis les Grecs, même les présocratiques d'ailleurs, des grands noms, comme Pascal, d'un très grand philosophe existentiel, de conscience tragique, et bien des noms comme Kierkegaard, de Unamuno en Espagne, c'est des grands noms de cette tendance de la philosophie existentielle. J'avais un professeur de philosophie qui était existentiel. Et alors il nous démontrait avec un brio que seuls les professeurs de philosophie qui parlent français peuvent connaître, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est ce brillant de l'exposé des philosophes français, surtout contemporains, on appelait ça le style agrégatif, vous avez entendu parler de ça, que la vie était absurde, que le monde était absurde, que tout était absurde. Mais il démontrait ça avec une logique qui n'était pas du tout absurde. Il y avait déjà quelque chose à comprendre. Et les premiers existentialistes ont été les sophistes. Ils nous démontrent avec la raison que rien n'a de sens. Sauf ce avec quoi ils démontrent. Vous voyez à peu près la boussole affolée. Okay. C'est très tragique tout cela. Parce qu'en plus, c'est des êtres vivants et qui vivent. Bien, comment ils dorment la nuit, comment ils aiment leurs femmes et leurs enfants. Bon. Et alors, on va avoir beaucoup de pitié. Avec le matin, on dit Baruch, alors à Saint-Nicolas, c'est pas pour rien. Et alors, un jour j'ai découvert que tous les mois, il allait toucher son chèque au secrétaire. Alors oui, tout est absurde. À l'abri du chèque qu'on va toucher au secrétaire. C'est fait le rapport ça. Alors vous voyez ce que c'est que la conscience tragique. Bon, je m'arrête là. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Ce que j'avais compris par là, c'est qu'il faut savoir rester honnête avec soi-même.
Et dès qu'on se heurte à une contradiction, c'est qu'il y a un problème. Et que peut-être les données desquelles on était parti étaient fausses. C'est exact. Je veux dire, il y a une seule personne qu'on ne peut pas tromper. C'est qui ? Soi-même. Réfléchissez à
ça.
Et pour les pédagogues, pour les pédagogues, c'est très important. Je donne toujours aussi une dimension pédagogique dans le problème. Et j'en ai parlé ce point à un des cours déjà. Vous savez, on est là à peine depuis une semaine, donc rien que ça fait 6 mois. Mais faites attention, le temps va vite. Hein. Et alors, donc je vous ai dit, une fois, il ne faut jamais présenter à quelqu'un comme évident quelque chose qui n'est pas évident pour soi-même. Voilà, c'est la grande gaffe pédagogique, surtout avec les enfants. Jamais. C'est-à-dire, il y a un proverbe hébreu, vous l'apprendrez en hébreu probablement, qui est dans un proverbe talmudique. Rappelez-moi de vous reconnaître l'histoire d'Abraham quand on y arrivera. C'est Ashmer leosnecha, mashéata motse mipir. Ça veut dire, quand quelqu'un dit quelque chose, il a l'air convaincu, mais ça ne marche pas, alors on lui dit Ashmer leosnecha, mashéata motse mipir. Ça veut dire, faire entendre à tes oreilles ce que tu sors avec ta bouche. Ce que tu sors de ta bouche. Quel?
Monsieur Lacan nous dit aussi que je me vois toujours là où je ne suis pas.
Oui, ça, le langage de Lacan, je veux dire Lacan, on dit Chronologie Barra, c'est ce qui vient de mourir.
Ouais.
Lacan, c'était un très grand homme de la civilisation contemporaine. Et le langage de Lacan, il faut le prendre avec ses propres attendus. Est-ce que c'est clair? Et il y a toute une préparation au langage de Lacan. Bon, maintenant je vous citerai des lacanistes. Mais bien faire attention. Tu sais d'ailleurs qu'il y a toute une atmosphère tragique autour de Lacan. Le nombre de disciples de Lacan qui se sont suicidés, surtout ceux qui venaient du marxisme, est considérable. C'est pas pour rien. Enfin, peut-être un jour on touchera à ce problème. Top. Et il a essayé, si vous voulez, d'être, dans le langage que j'en parlais tout à l'heure, un super stoïcien, mais il faut suivre. Et il y a des gens qui ne suivent pas. Bien. Alors, je vais vite finir cette parenthèse. Je parlais surtout de Echad et de Yachid pour vous indiquer que cette notion de un au-delà de l'unique, hein, et en quoi je vous dis déjà, ce niveau de la théologie juive est au-delà de la théologie musulmane, qui est cachère pour nous, mais c'est un premier pas, que Dieu est unique. Ça, c'est la formule de la profession de foi musulmane. Il n'y a de Dieu que Dieu. Okay? Bon, ils ajoutent Mahomet et son prophète, c'est leur problème. Mais la première partie, elle est sémite authentique. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il faudrait ajouter, du point de vue de la formulation logique, s'il y a Dieu, il n'y en a qu'un. Vous comprenez? Et c'est déjà une conviction au-delà du polythéisme. Mais que ce Dieu qui est unique soit un, c'est là que le problème de la conscience hébraïque va commencer. C'est clair jusque-là? Bon. Et vous avez vu à quel point les chrétiens ne s'en sortent pas. Parce que pour eux, c'est 1 égale 3. Et là, nous aurons à faire un effort pour découvrir cela. Il y a des notions auxquelles nous sommes familiers par habitude, par hérédité, par atavisme, par tout ce que vous voulez, par exemple celle-là, l'unité de Dieu, et qui ne font pas du tout partie de la pensée rationnelle, dont l'évidence possède une autre source que l'intelligence livrée à ses propres forces. On a vu ça déjà à propos de la notion de création. Vous vous rappelez de ça? Bon, alors je vais vous donner la réponse à la question que j'ai posée. Je vais vous donner la réponse qu'a donnée un des grands commentateurs de la Bible, qui est Abravanel. Vous avez entendu parler d'Abravanel? Bon. Pas encore. Bon, Clovis, vous savez ce que c'est. Ça, c'est déjà ça. Et Abravanel, c'est un des grands, bon, ça vous apprendra une biographie. Et je vous conseille de vous accrocher beaucoup au cours de la bibliographie. Ça, c'est indispensable pour vous. Ça va vous faire récupérer 20 ans d'études que vous n'avez pas eues. C'est un cours difficile, mais très important. Je pense que vous l'avez perçu par vous-même. Alors, travaillez bien ce cours-là pour pouvoir aller vite, parce qu'il y a énormément de choses à récupérer. Profitez de cette année, vous êtes dans une oasis. Et alors, Abravanel répond, on peut dire premièrement que quand il y a déjà un deuxième. Voilà, c'est la réponse chasse. Tant qu'il n'y a pas encore un deuxième, le jeu est unique, il est seul à être. Alors, il est appelé un. Hein. Nous aurons d'autres dimensions de cette notion avec mais il me semble que je vous ai dit ça vendredi soir. Oui, non. Qui a pris la précaution samedi soir de mettre par écrit quelque chose des notes de mémoire que vous avez pris le Shabbat? Personne. Vous avez une confiance dans votre mémoire? Bien. Chaque fois que je dis une calomnie, il y a quelque chose qui se venge. Allez, on va aborder le cours d'aujourd'hui. Mais j'ai rien dit, qu'est-ce que j'ai dit?
Vous l'avez dit dans la mesure où vous avez dit que vous avez un deuxième mot pour votre nom.
Enfin, ça c'est autre chose. Là, cela, il ne s'agit pas de deuxième. Là, tu voudrais dire un autre. Oui, c'est une autre idée. Là, de l'ordre 1, il n'y a pas encore premier parce qu'il n'y a pas deuxième, ça c'est dans l'ordre ordinal. Le problème de l'altérité, l'autre, ça c'est une autre catégorie qu'on va aborder à mon retour. Bon. Ken.
On ne peut pas dire aussi que si on sous-entend premier, on peut imaginer qu'il y a une suite, qu'il y a ce double second, etc. Oui, on dit que le 1, tout ce qui va suivre reste dans le 1, est compris dans le 1.
Vous avez compris.
Par exemple, bon, si on prend l'unicité de Dieu, Echad, c'est-à-dire que tout ce qui paraîtrait en dehors de Dieu est encore dans Echad, c'est encore dans Dieu. Ce n'est que si on dit premier, on pourrait penser qu'il y a une suite qui soit hors de
Dieu. Très bien. C'est-à-dire premier par rapport à l'unicité de Dieu, resterait encore dans la pensée polythéiste. Vous comprenez ça? Pourquoi? Par exemple, si je dis. Je prends par exemple la notion de l'être suprême au temps de la Révolution française, la religion de la raison, vous vous rappelez de ça? On avait un culte pour l'être suprême. Hein? Alors ça veut dire que lui il est suprême, mais qu'il y en a d'autres. C'est encore de la pensée politique. C'est clair? Bon, c'est ce que je voulais faire. Très bien. Oui.
Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi l'unité?
Parle plus fort.
Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi l'unité dans le premier jour, parce que Dieu a créé la lumière dans le premier jour? La lumière se repose.
À quoi tu penses? Que la lumière blanche, c'est l'unité de toutes les couleurs?
Non, mais enfin, la lumière, c'est la réalité, c'est...
C'est très beau.
Oui.
La yeshiva. À la yeshiva, on a l'habitude de dire ah. Le drache, c'est très beau.
Bon, là, par rapport à... On parle de l'Echa pour le premier jour. J'essaie de faire un rapprochement. Bon, par rapport à la divinité, on comprend donc qu'il n'y a pas, c'est pas l'être suprême. Puisqu'on parle de Echad pour le premier jour. Ouais. Donc on a vu que le premier, ça pourrait être l'être suprême. Donc on parle de Dieu Echad. Alors on dit du jour Echad, est-ce que ce serait donc pas le jour le plus grand, mais alors le jour qui comprend tout?
Bon, toi t'es un insecte analyste, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est un petit peu dans une petite autre forme dans le Talmud. Mais on le reverra, parce qu'on est en train de s'empêcher de faire le cours qu'on doit faire aujourd'hui. Alors simplement pour vous aider un peu, je vous ai une réponse globale, parce que je sens de la question vous a touché et en envoyant dans le courrier. Okay. Voilà, le verset dit. Sur ce verset, vous l'entendez bien, c'est « et ce fut soit ». Soit, ça renvoie à l'obscurité, le commencement de la nuit. Okay. Et ce fut matin. Donc, ça renvoie à la lumière, le commencement du jour. Alors, vous utilisez, entendez avec moi, « et ce fut soit et ce fut matin, dualité. Okay. Et bien que il y ait élève et bokeh, et bien qu'il y ait soir et matin, le jour lui est un. Alors là, nous avons une idée d'unité au-delà de cette dualité-là. Vous suivez? Bon, ça va un peu dans le sens de la question, mais je voulais un peu générer. C'est clair pour tout le monde? Et on retiendra ça parce que ce Yom Echad, ici, c'est une option de la conscience hébraïque que bien que dehors, dans mon monde extérieur, il y ait toujours des antinomies, des contradictions, la lumière, l'obscurité, les civilisés perçoivent de moins en moins ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avons des artifices. On peut faire de la lumière en pleine nuit. Tu ouvres un bouton et puis ça y est. Alors on ne voit plus le passage du jour à la nuit, de la nuit au jour. Le paysan, je l'ai souvent paysan et ce n'est pas du tout péjoratif, perçoit cela. Le monde extérieur est hostile. Pourquoi? Parce qu'il est le monde de la dualité, de la contradiction et de la tragédie. Ou bien on se laisse aller à ça, on devient païen. Vous savez d'ailleurs que l'étymologie du mot païen, c'est le mot paysan. C'est le même sens. Vous savez cela, ok? Ou bien on a affaire aux descendants d'Abraham, l'option hébraïque, et c'est bien que dans le monde extérieur, et malgré que, est-ce qu'on dit malgré que en tant que malgré cela, il y a une option d'opposition, et bien le monde m'apparaît comme dualiste. Eh bien, c'est une apparence. La vraie réalité profonde, supérieure, ce que vous voulez, c'est lui. Mais ça, c'est une option au-delà de la raison. Est-ce que c'est clair? Et c'est de l'ordre de la foi. C'est pas du tout de l'ordre de l'intelligence. Au contraire, c'est l'ordre naturel, polythéiste, qui est normal au niveau de l'intelligence. Vous avez remarqué que l'intelligence fonctionne toujours par dualité. Dès que je dis grand, j'entends petit, etc. Blanc, noir. Retenez donc ça, et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, et à ce que j'ai dit aussi, et le Midrash dit à ce sujet, Yom Yichudo Shel, c'était le jour de l'unité du monde. Vous voyez, ce qu'il y a déjà là dans cette lecture, va y aller, sache que le Yom est Echad. Alors c'est dans tout cas important de ne pas dire riche. Riche, on ne pouvait pas dire. Mais c'était important de ne pas l'oublier. C'est clair? Bien, alors on arrive donc au sujet d'aujourd'hui. Je voudrais un peu approfondir avec vous en vous donnant des exemples dans le texte. Tout le monde a son livre de Bréchit, ok? Pour ce cours-là. Ce que nous avons appris de ce plan du premier coup, je vous le rappelle brièvement, projet, Yéhior, qu'il y ait lumière. Récit de l'effectuation de ce qui a eu lieu dans la réalité, Bayo et lumière. Ensuite, jugement, Bayar et Elohim et Orkito. Ensuite, le bilan, la lumière sera destinée au jour, etc. Et puis, on va passer à l'étape suivante, parce que c'est suffisamment réalisé. Bayar et Elohim et Yomer. Bon. Mais là-dessus, c'était greffé. Une deuxième remarque qui va être le point de départ du cours d'aujourd'hui, c'est que c'était la notion d'approximation. Vous vous rappelez de ça? Qui n'est pas visible dans l'œuvre du premier jour. Parce que dans votre texte, il y a le même mot, or, pour le projet et la réalisation. Qu'il y ait lumière, et c'est de la lumière qu'il y a eu. Je laisse de côté, mais vraiment pour mémoire, que peut-être la lumière que nous avons n'est pas exactement la lumière projetée. Mais en tout cas, c'est de la lumière. Okay? Alors que dans tous les autres jours, eh bien, il y a un autre mot qui est employé, je vais vous dire d'abord en français, et il en fut ainsi. Vous avez remarqué dans vos textes en français? Alors en hébreu, ça se dit « vayihi re ». se vaillit Ren. Et il en fut ainsi. Alors, un exercice pour passer du français à l'hébreu. Vous allez voir, toutes les traductions sont fausses. Parce qu'on ne peut pas traduire. Parce que dès qu'on traduit, on traduit. Vous vous rappelez comment on disait en italien ? Traduttore, traître. Traduttore. La traduction est traître. Quand je dis en français, et non, avec quel livre tu suis, toi ? Avec quel livre tu suis ? Non, j'aurais préféré essayer le Rachid. Ah bon, d'accord. Parce que faites attention, je le disais à vous, c'est un livre excellent. Du point de vue d'érudition que ça peut vous donner, des sources énormes que le Rav Mouk a rassemblées dans son livre. Mais ça ne peut que vous disperser parce que c'est en français. Si un jour on fait des exercices, moi une phrase n'importe laquelle, et je vous montre qu'en hébreu, ce n'est pas écrit comme ça. Alors ne vous dispersez pas. Vous suivez avec la traduction française du Rachid, et déjà ça, c'est tout juste à manier avec précaution. Depuis le début, c'est bon. Alors, vous appelez-vous. Regardez, quand je dis en français, il en fut ainsi. Qu'est-ce que j'entends ? C'est que c'est ça qui a eu lieu, que le projet s'est réalisé. Et en hébreu, ça veut dire tout à fait le contraire. Alors, je vais modifier le français, et il n'en fut qu'ainsi. Il n'y a eu qu'un « comme » de ça. Vous avez vu qu'il est changé ? Vaillé, prêt. Et il y a eu « comme ça ». Et pas ça, mamache, ça vraiment. Oui, vous comparez ce qu'il y a écrit au premier jour et ce qu'il y a dans les autres jours. Yeyo, vaï, or. C'est du or qui a eu lieu. Tandis que pour tout le reste, c'est très quelque chose qui ressemble. Une, ce que je vous appelle en français, une approximation. Ça va, c'est clair ? Alors, ça veut dire.
On peut croire que Dieu ne réussit pas ce qu'il demande.
Attends, je veux. D'accord, cette question va se poser, mais tu vas trop vite. On va aller un peu plus loin. Et alors, faites quand même un effort de mémoire de retenir toutes les idées qu'on a apprises dans les cours précédents. Ça veut dire que Caparella, je vais dire de façon positive, l'idée d'une sorte de liberté diffuse dans l'être créé dès l'origine, et que l'être créé répond au projet comme il peut. Dans les limites de sa liberté. Et que finalement, il répond par approximation. C'est pas Dieu qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Okay? Vous rappelez, je dis, c'est pas un Dieu démurge, un dictateur qui a dit que c'est ça qu'il y aura et puis il commence. Je dis, voilà le projet. Fais ça. Ce qui a été fait est à peine, je vais employer un terme mathématique, asymptote. Je crois que c'est le terme le plus précis pour le monde. Vous savez qu'est-ce qu'un asymptote ? C'est une courbe. Doit arriver à une certaine coordonnée et qu'elle n'y arrive pas, elle reste asymptote. Vous y êtes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est un petit décalage. C'est ce Ren-là dont je vous parle. Allez, ceux qui ont fait de la physique, qu'est-ce qu'on appelle en physique la marge de. On appelle ça la marge d'approximation, delta. Vous savez ce que c'est ? Qui a fait la physique ? Vous avez cru que vous avez fait de la physique ? C'est croyant. Bon, cette espèce d'idée de marge d'approximation. Alors j'ai essayé, c'est une expérience un peu fine, j'ai essayé de développer pour que vous l'intégrez comme catégorie de l'hébreu de la Bible, okay, qui est très important.
Vous voulez dire, j'ai pas oublié après, mais c'est-à-dire un peu, c'est quoi, je veux dire, au moment de l'approximation chez l'homme, c'est-à-dire que s'il y a un projet pour l'homme et que lui, il y a un décalage, c'est quoi pour la lumière, par exemple?
Non, pour la lumière, c'est le cas.
D'accord.
La lumière, c'est quand même de la lumière. On vous parlera après dans d'autres textes, dans d'autres sources, que la lumière, vraiment, elle est 70 fois celle-là, donc on n'arrive pas à la supporter. C'est pour ça qu'elle nous a été diminuée. Mais c'est quand même de la lumière. Bon. Je vous dis ça en passant. Tandis que pour tout le reste, il y a écrit un tout autre mot. Il y a écrit, et il en fut ainsi. Alors entendez-le dans le français étymologique. Dans le français du Moyen-Âge, ainsi, ça traduisait « reine ». Mais dans le français moderne, ça a un peu changé de sens. Et on entend « ainsi » comme si c'était la chose elle-même. Vous y êtes ? Il y a un mot latin qui peut vous aider, qu'on emploie en français, c'est « quasi ». Cette idée de « c'est quasi ça ». C'est compris ? C'est écrit comme ça. « Quasi ». Vous voyez ?« reine ». Il y a un mot qu'on emploie beaucoup dans l'hébreu familier, c'est le mot de mamash. Ça vient surtout des chassidim. Quand on veut dire que la chose elle est ce qu'elle est, on dit mamash. 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 C'est cette idée-là. Que le chet est sotot. Le chet, c'est que c'est pas mamash. Vous avez compris le. Dans le langage du Zohar, on dit vadaï. Ça veut dire vadaï.
Bien sûr.
Évidemment. Et dans le langage de la Chassidut, on dit mamash. Vadaï, mamash, une petite nuance, mais en fait, c'est à peu près ce que je veux dire. Alors, je reprends ce que nous avons dit à l'époque sur ce sujet. Le thème, c'est le décalage qu'il y a entre le niveau de vérité et le niveau de réalité en toute chose. Vous voyez, c'est ce chen qui nous montre ce parav. Mazé parav. Mazé parav.
Décalage.
Vous voyez qu'on ne peut pas traduire. Parav, c'est parav. Une distance, il y a un fossé parfois, qui parfois n'est pas perceptible, une asymptote, c'est tout près de la coordonnée, mais n'arrivera jamais. Vous avez un exemple, le nombre pi. C'est un nombre qui existe quand même, hein? Et voilà qu'on n'arrive pas à le formuler. Hein? Il est asymptote à une certaine vérité du nombre pi, mais que la réalité n'arrive pas à rejoindre. 3, 14, 116, verrouler, jusqu'à l'infini. Okay? Et alors, arrive à rejoindre, pas moyen. Et pourtant, le nombre pi, c'est le secret du monde. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le nombre qui exprime le rapport entre la droite et le cercle. Et toutes les formes dans le monde, c'est des rapports différents de la droite et du cercle. Est-ce que c'est clair ? Je vous donne un petit cauchemar. Mais vous avez compris l'idée, là ? Okay ? Le nombre pi exprime, enfin, le problème du nombre pi exprime ce problème-là. De l'approximation entre la réalité et la vérité qui n'arrive jamais à se rejoindre. Et qui nous est dit dans le texte par un mot apparemment anodin, que vous n'avez jamais dans les traductions, ce mot de chen, qu'on traduit par ainsi. Voyez, et qu'est-ce qu'il y a eu dans la réalité? Une approximation de ce projet de vérité. Voyez, chen. La première idée qui apparaîtra, qu'on commence à exploiter aujourd'hui, la réaction qu'il faut avoir, c'est pas que Dieu n'a pas pu imposer ce qu'il voulait, c'est pas ce Dieu-là qu'on parle. Hein? C'est donc qu'il y a de la liberté dans le monde. Puisqu'on peut se tromper, c'est qu'on est libre. Est-ce que c'est clair? Là, je vous cite, sans le citer, Spinoza. C'est-à-dire, la preuve qu'il y a de la liberté, lui, il ne pensait pas qu'on était libre. Mais la preuve qu'il y a de la liberté, c'est qu'on se trompe. Alors, attention, c'est une liberté catastrophique, la liberté de se tromper. Parce que très souvent, les hommes réclament la liberté de se tromper.
Je comprends pourquoi vous associez la liberté.
Parce que si je fais une erreur, écoute, je vais te dire. Si j'étais soumis à un déterminisme de la vérité, je ne me tromperais jamais. Si je peux me tromper, c'est que je suis libre. Non, je n'ai pas dit que la liberté est trompée. Non, ce que je dis, c'est que la liberté de se tromper, c'est une liberté très inférieure. Mais très souvent, on réclame la liberté, et qu'est-ce qu'on veut dire par là? La liberté, quand on dit « je vais être libre de ne pas être d'accord », très souvent ça veut dire « je vais être libre de ne pas être d'accord avec la vérité ». Je vais être libre de me tromper. C'est ça. C'est exactement le problème. Vous voyez comment nous sommes trompés par la littérature. Regardez. On a l'esprit encombré par les clichés qui sont des fausses évidences et on se répète ça, la pensée mécanique. Okay? Pierre qui roule n'amasse pas mon trou. Regardez, on rentre dans la vie avec Pierre qui roule n'amasse pas mon trou. D'accord, on voudrait être une pierre qui amasse de la boue. Vous suivez? Mais je vous donne un autre exemple, c'est beaucoup plus grave. Et vous allez découvrir l'incompatibilité entre l'esprit hébraïque et la culture à laquelle on a été habitué jusqu'à présent, ce qui ne signifie pas que ce n'est pas une grande culture, c'est un autre problème. Voilà, on raconte tranquillement depuis 2000 ans, dans le monde chrétien, la justice n'est pas de ce monde, comme une évidence qui va de soi. Alors la justice n'est pas de ce monde, mais renonce à la justice. Okay. Vous voyez comment on inculque aux enfants des conditionnements mentaux qui finalement protègent les intérêts de la classe dominante. Vous avez compris le conseil que j'ai fait. Et alors, à partir du moment où vous avez une génération entière qui rentre dans la vie avec ce slogan « La justice n'est pas de ce monde parce que Pierre qui roule ne masse pas mousse », alors voilà comment vous avez la lutte des classes. Vous voyez comment ça marche.
Premier cours que vous nous avez donné la notion de vérité et monde.
Vérité.
Homme et vérité.
Ah oui, c'est une discussion qui arrive là. Voilà.
Et vous avez dit que la vérité, non, la réalité rejoindra la vérité.
Oui, oui. Ça, c'est l'option hébraïque. Je commence d'abord pour vous donner les données du problème. Okay? Les données du problème dans le monde extérieur, tel que nous le percevons, nous percevons cela qu'exprime le chen. Il y a un décalage entre la vérité et l'option hébraïque, c'est qu'il faut supprimer ce décalage, en toute chose. Mais premièrement dans la morale, c'est ça l'important. Voilà, on a situé un peu. Non, maintenant, ensuite, je vais vérifier dans ma pensée si c'est suffisamment clair. Vous avez suivi ça, ok? Et ce que je veux un peu développer aujourd'hui, c'est cette notion d'approximation et les implications qu'elle a. Mais nous découvrons ici déjà un thème extrêmement important. Vous aurez deux options humaines par rapport à ce problème. L'option humaine qui renonce, qui consent à ce décalage entre la vérité et la réalité, c'est l'option dualiste. Et elle va dans le même sens que la conscience tragique. La justice n'est pas de ce point. Vous voyez ? Et à la polarisation de cette ligne de culture, de l'option, de consentir à cela, c'est finalement la culture grecque. Où on sépare radicalement le monde de la vérité et le monde de la réalité. Vous voyez ? Et à la limite, il y a une dimension dans la mentalité chrétienne, et je vous parlerai souvent du christianisme parce que la civilisation occidentale, c'est la civilisation de la chrétienté, qui est d'origine grecque. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et surtout le plus haut possible, et rendez à César ce qui appartient à César. Hein? Obéissez à l'empereur. Vous voyez à peu près est-ce que c'est clair? Et César, c'est le tsar, c'est le kaiser, okay? C'est le tsaros, quoi. On est bon. Vous savez ce que ça dirait? Le tsaros, on est
bon.
C'est plus grave que ça. Bon. Vous voyez quelle est la direction de la pensée dualiste. Alors que l'option hébraïque sera, je schématise beaucoup parce qu'on est au début, on prendra beaucoup de schéma Israël comme ça. L'option hébraïque sera que, en dépit de tout, d'affirmer l'unité. D'affirmer l'unité. Et pourtant, ça crève les yeux que c'est la dualité. Et c'est la raison pour laquelle les Hébreux, depuis qu'ils sont entrés dans l'histoire, ont toujours été pris pour des fous. Et puis pour des empêcheurs de danser en rond, laissez-nous nous installer dans la dualité. Okay? Dieu dans l'église et l'empereur dans la cité. Vous voyez les implications de cette première découverte. C'est que là nous avons une option qui vient de l'identité profonde. Et cette option qui vient de l'identité profonde, elle est préalable à tout raisonnement, à toute explication. Ensuite, on explique ce qu'on veut dire dans cette option, mais c'est d'abord une option d'identité. Alors, mettez bien ça dans vos notes, parce que, une minute, je termine. Mettez bien ça dans vos notes, parce qu'on retrouvera ça dans beaucoup de thèmes que nous avons à explorer, à découvrir, à explorer. C'est que, ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est que, à l'échelle collective d'une société, il y a un cas particulier de cette option de l'unité, c'est le peuple hébreu, en tant que nation. En tant que société, en tant que collectivité. Alors que cette option est connue chez les Goïms, mais à l'échelle individuelle. Vous voyez ? Comprenez bien cela. Là, vous avez la base, une clé qui vous permettra d'entrer dans le Kuzari de Judas Lévi, où c'est exposé. Là, vous aurez un séminaire là-dessus, j'espère que Benobros arrivera. Vous avez entendu parler de Benobros ? Les Adjaciens, il n'y a pas d'Adjaciens parmi vous ? Bon, un très grand professeur de philosophie du contemporain. Et qui était directeur de l'école à Tuba dans la génération précédente, à Strasbourg, et qui est maintenant son professeur à Paris-là. Et alors, c'est un des plus compétents dans ce sujet-là, mais c'est là de lui voler un séminaire que vous ferez avec lui sur le cousin. Vous voyez, il y a ici un principe important. Très souvent, on va se heurter à cette espèce de scandale que dans beaucoup de textes, dans beaucoup de notions apparaissent. Une catégorisation de l'humanité, Israël d'un côté, les autres, énorme. Okay? Et combien il y a de juifs dans le monde, par rapport à l'humanité entière. Okay? Alors, j'essaie de vous éclairer cela. Cette catégorie doit s'entendre de cette manière. Okay? Tous les hommes sont des hommes. Mais voilà ce qui s'est passé dans l'histoire, à partir d'Abraham, qui a mené à Israël. C'est que un certain nombre d'options sont des options immédiates de la collectivité d'Israël, mais qu'on retrouvera, qu'on peut retrouver, mais qu'à l'échelle individuelle chez les Goïms. Et alors il arrive que ces individus des Goïms régularisent les langues d'Israël. Okay? Vous avez compris le problème?
Comment